Et pour l'occasion, le football fait aussi sa rentrée sur le département. Et pour en parler, on a été chercher directement le numéro 1 du football amateur. C'est Jonathan Blondy qui est avec nous. Bonsoir Jonathan, comment ça va?
Eh bien, très bien. Merci pour l'invitation. Merci à tous les deux.
Allez, on va revenir jusqu'à 19h55. On va revenir ensemble sur tous les changements qu'il va y avoir pour cette nouvelle saison. Et n'oubliez pas, pour les gens qui nous écoutent sur la FM, on passera à 20h après en Facebook Live pour le tirage au sort des trois coupes du département, coupe du coup du département,
de district
et de série pub.
Exactement.
Donc ça sera du coup passé en vidéo sur la page La Demi-Heure Sport. Allez, on commence pour cette rentrée. Quelles sont les nouveautés? Dans quel état d'esprit tu te trouves, Jonathan?
En forme. Motivé, moi aussi j'ai coupé un petit peu cet été, alors j'ai pris moins de couleurs que vous a priori, on devait peut-être pas être au même endroit. Moi j'étais plus près de la montagne a priori.
La Bretagne.
Mais en forme et puis d'attaque pour cette troisième saison déjà, puisque on en parlait lundi soir à la réunion de rentrée, on a passé la mi-mandat déjà et on attaque la troisième saison, donc plus que deux hein, pour le coup jusqu'en 2028, donc c'est vrai que le temps passe. Donc motivé et puis en pleine forme, voilà.
En pleine forme, bien sûr, le football a bien sûr commencé. On sait que le championnat va commencer ce week-end.
Exactement.
Mais il y avait la Coupe de France. La Coupe de France, il ne reste plus que 9 qualifiés en Dordogne avec pas mal, du coup, 9 clubs qui sont passés. Et puis un match particulier ce dimanche dont tu étais, du coup, tu as arbitré. C'était le match, bien sûr, entre l'AS Neuvik et l'immense JSA, pardon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce match qui était si particulier?
Un match particulier, le hasard du tirage a fait en effet que les deux clubs qui sont en groupement s'affrontent dans une semaine chargée d'émotions. Le pôle arbitrage a souhaité que j'officie sur cette rencontre et ça me paraissait légitime dans le cadre des relations que je pouvais avoir avec Jerry Lee entre le district que je suis et le président de club qu'il était. Il était membre du groupe Synergie Club au district, du groupe de travail. Donc c'était une façon aussi pour le district de lui rendre hommage en étant présent sur cette rencontre. Voilà. Les deux clubs ont eu un superbe état d'esprit tout au long de la rencontre, avant, pendant, après. Et je pense que le climat qui a régné a été à l'honneur du président de Neuvik. Donc, et oui, c'était un match particulier, dans un contexte particulier. Pour un homme en plus de qualité.
Exactement. Et le fait du sort, c'est que du coup la AS Neuvik Saint-Léon avait ouvert le score et avait
à deux reprises ils ont mené au score, ils se sont fait reprendre et après la loterie d'une séance de tir au but qui se termine à 15-14. C'était assez long d'ailleurs. C'était très quand on est sur le terrain, c'est assez long de se demander quand est-ce que la séance va s'arrêter. Mais c'était peut-être un signe du destin ça aussi.
Sur la Coupe de France, il y a deux petits poussés. Il y a le club d'Excideuil, le club de Montois.
Oui.
Pour toi, qui va encore aller un peu plus loin?
Alors, Beaumont a la malchance, mais ça reste aussi une chance finalement, parce que c'est un match de gala de recevoir une R1. Dans le cadre d'Excideuil, ils reçoivent une R3 et ils viennent de battre une R3 au tour précédent. Alors, peut-être qu'Excideuil a une petite chance... de plus, mais bon, Beaumont chez eux, on sait que c'est toujours difficile d'aller gagner chez eux. Et avec l'ambiance qui va être autour du stade et autour de la rencontre, pourquoi pas un exploit?
Un exploit du coup du côté de Beaumont.
Exactement.
Voilà. Allez, ça c'était la parenthèse Coupe de France. On va revenir bien sûr sur le district. Un retour au championnat de la D1 la D1 et d'ailleurs tous les autres championnats.
Ça fait.
Ce week-end. Quelles sont les nouveautés de championnat de D1 qui est toujours, on ne sait pas, à la fin de la saison, c'est toujours incertitude. Est-ce qu'il y aura du coup championnat à 14, championnat à 16, ça revient, c'est toujours dans les mœurs?
Alors nous c'est le championnat, en effet la poule est à 14, l'ambition à terme c'est de pouvoir revenir à 12,
ouais.
Mais c'est pas de revenir à 12 en faisant n'importe quoi. Donc si on n'a aucune descente de clubs régionaux, donc aucune descente de clubs de R3 en district, en effet, on basculera à 12. Mais si on a ne serait-ce qu'une seule descente, il n'est pas question que ce soit nos clubs de D1, puis de D2, puis de D3 qui en payent les conséquences. Et dans ces cas-là, on restera en l'occurrence à 14. Mais c'est vrai que cette année, on a un championnat D1 qui est très indécis. Autant les deux dernières années, On avait quand même des favoris qui d'entrée de début de saison étaient dans les idées des gens, on va dire. Il y a 2 ans, c'était Thonon et l'US Lacat. L'an dernier, Périgueux Foot paraissait quand même bien armé et faisait partie des favoris. Neuvik et Fos faisaient quand même partie là aussi des favoris. Mais là, cette année, c'est vrai que
Ça va être
y
certainement
a
très
beaucoup plus
enchaîné.
d'incertitudes. Les clubs ont bien recruté, a priori, de ce que j'ai pu voir et entendre, des matchs amicaux que j'ai pu voir aussi. Donc, tant mieux, ça va être haletant.
T'as été voir certaines équipes du coup.
Ouais, je suis déjà allé voir, oui, j'ai repris mes activités depuis le 3 août. Donc, malgré une petite semaine dans le Pays Basque, j'ai jamais été très loin des terrains. Et je suis allé voir déjà des matchs amicaux, des matchs de coupe déjà. Et tant mieux, on va avoir un championnat D1, D2, même D3 très très relevé, puisque même nos deux poules de D2 sont a priori très équilibrées sur le papier cette année aussi. Donc tant mieux, ça veut dire que notre football départemental, dans l'ensemble, vit bien et se comporte bien. Et l'intérêt pour nous, hein, c'est que lorsque nos clubs montent en ligue, c'est qu'ils y restent surtout et que j'aimerais ne pas les revoir. Donc petit message et dédicace à nos clubs qui viennent de monter, de Périgueux Foot et de Neuvik et tous les autres, ne revenez pas s'il vous plaît en
Ouais.
D1, hein, restez en ligue.
C'est la complexité de la fin de saison finalement
Ouais,
pour organiser une nouvelle saison.
exactement, puisqu'en fait nous on dépend, tout comme les championnats nationaux et régionaux dépendent d'en haut. Hein. Donc il y a les descentes de Ligue 1 en Ligue 2, de Ligue 2 en National, etc. Enfin Ligue 3 maintenant. Et en fonction du nombre de descentes de N2 en Ligue, les ligues, il y a de plus en plus de descentes de R1 en R2, de R2 en R3, de R3 en district. Et donc forcément, nous, on est en bas de la pyramide et on subit. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on souhaite et on espère qu'il n'y ait pas de descente. Mais les clubs ont un suivi assidu de notre part, puisqu'on les prévient dès le début de saison du contexte et de la grille des montées et des descentes. Donc il n'y a pas de secret. Depuis le 1er juillet, ils savent qu'il y aura tant de descentes de D1 en D2 et de D2 en D3, ou tant de montées. Mais en effet, il peut y avoir jusqu'au dernier moment des ajustements sur notamment les playoffs. Est-ce qu'on fait des playoffs ou est-ce qu'on n'en fait pas en fonction du nombre de descentes de ligue. L'an dernier, on aurait pu avoir des playoffs et puis finalement, à la dernière journée de championnat, on a eu une descente de plus qui n'était pas prévue. Et à 4 descentes, on n'avait plus de playoffs, ni en D2 ni en D3. Voilà.
Ça peut créer de la déception.
Oui, ça peut créer de la déception, de la frustration,
Ouais.
je peux l'entendre. C'est légitime, mais il faut se mettre aussi à la place d'un fonctionnement global, d'un intérêt général du département. J'ai connu, moi, il y a quelques années, où on finissait en moitié de poule, on finissait 7e sur 12 ou 6e sur 12 et on descendait.
Oui.
Et je pense pas que ça soit être une mauvaise saison que de finir 6e ou 7e sur 12 et de descendre. Donc aujourd'hui, on préfère qu'il y ait un peu moins de montées, mais stabiliser nos clubs et apporter un peu plus de sérénité à notre football départemental et éviter d'avoir des clubs qui font l'ascenseur chaque année. Donc je pense qu'on est dans le vrai, mais il fallait à un moment donné prendre la décision et il fallait le faire une première fois.
Il y a eu donc la rentrée ce
Oui,
lundi,
tout à fait.
où c'est que tu as annoncé au club que la priorité de la saison, ça sera le calendrier des championnats.
Oui, ça fait partie de nos priorités de toute façon depuis 2 saisons, mais on va le reconduire. Hein. C'est priorité au championnat jusqu'au mois de décembre, très peu de matchs de coupe. On va systématiser à nouveau les inversions sur la phase aller. Une protection des calendriers sur janvier, février, mars, et on évitera en effet les inversions. Et puis à partir du nouveau, à nouveau du mois d'avril, si nécessaire, on repassera à nouveau sur les inversions. Ça nous a quand même donné raison depuis 2 saisons, puisqu'on a tenu à chaque fois nos calendriers et on les a tellement bien tenus que ça a évité au club de se retrouver à jouer tous les 3 jours au mois de mai, sur les jours fériés, dans les ponts. On a quand même certains districts qui sont voisins qui ont joué jusqu'à fin juin en pleine canicule. Nous, ce n'est pas
D'accord.
notre cas. On a terminé nos championnats le 23 ou le 30 mai selon la D1 ou la D2, D3, D4. Après, il y avait les demi-finales de championnat le week-end du 30, puis les finales de coupe et de championnat. Mais ça, c'est pour des clubs forcément qui font des parcours. Quand on fait des parcours, on assume le fait qu'on va tirer un peu plus que les autres parce qu'on va en finale.
Bien sûr.
Mais on a tenu nos calendriers et ça a permis au club d'avoir réellement les 2 mois de pause estivale qui sont nécessaires, je pense, aux organismes, mais aussi aux bénévoles. Il faut y penser, aux
Aussi, ouais.
éducateurs aussi, qui ont besoin de couper aussi avant la reprise. Et on sait que le mois de juin, on a beaucoup coupé de plusieurs matchs. Il y a le recrutement, etc., etc. Il y a la saisie des licences.
Eh oui.
Voilà. Donc la pause estivale, je pense, a été nécessaire pour tout le monde, puisque la saison a quand même été intense quand même.
Est-ce que tu penses que du coup, de couper à la trêve de 4 semaines en décembre et janvier, est-ce que ça va pouvoir respecter le calendrier, surtout s'il y a des reports?
L'an dernier, on a, à quelques clubs près, on a eu à minima 3 semaines de pause.
Ouais.
Certains ont eu un bon mois puisque les clubs qui étaient à jour. Dans l'ensemble, on a à peu près tenu. Maintenant, c'est notre bouée, on va dire. On a deux bouées, hein. On a cette première là qui arrive au mois de sur cet intervalle de 4 semaines où on sait qu'on peut potentiellement jouer. Alors, c'est pas l'idéal, mais on peut jouer jusqu'au 20 décembre. Enfin, un peu plus là cette année, j'ai plus le calendrier avant Noël et qu'on peut reprendre si on voulait dès la première semaine de janvier, même si c'est absolument pas le but. Et d'ailleurs, on l'a protégé l'an dernier au maximum, sauf sur un ou deux matchs de coupe, mais on n'avait pas trop le choix pour tenir le calendrier. Des coupes en tout cas. Et après, on a une deuxième bouée sur le mois d'avril, mars-avril, où à nouveau, on se protège sur 2-3 semaines avec des intervalles. Mais le calendrier est fait en tout cas pour nous permettre systématiquement de tenir les échéances. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tous.
Comment ça fonctionne les inversions là, pour les clubs qui nous écoutent ?
Les inversions, lorsqu'on reçoit un arrêté municipal, on inverse automatiquement à partir du moment où c'est même jour, même heure. Donc on n'impose pas de changement de jour et d'horaire, c'est-à-dire qu'un club qui a l'habitude de jouer le samedi soir, si le match est inversé et que le club adverse n'a pas l'éclairage, ben on ne pourra pas inverser parce que ce n'est pas le même jour et même heure. Mais lorsque c'est même jour, même heure, ou éventuellement levé de rideau si c'est le dimanche, 13h, 15h, mais on fait l'inversion systématique. Et puis si de l'autre côté, il y a également un arrêté municipal, ben dans ces cas-là, c'est un report à une date ultérieure. Mais dans l'ensemble, les clubs ont joué le jeu parce qu'ils ont compris l'intérêt aussi qu'il y avait pour eux. Et nous on s'y tient. Donc le plus intense, c'est le week-end, hein, lorsqu'on doit passer les coups de fil au club pour faire les inversions. Mais aujourd'hui, ça se passe de manière assez fluide. Les clubs ont compris l'objectif de ce fonctionnement-là. Alors, bien sûr, des fois, ça fait un peu grincer des dents. Même si on a un grand territoire, ça n'empêche qu'on ne se retrouve pas non plus du jour au lendemain devoir faire 2h30 de déplacement, ce n'est pas le cas. Donc, et je pense encore une fois qu'il vaut mieux jouer dans ce système-là que de se retrouver au mois de mai à jouer tous les 3 jours en mode footballeur professionnel, ce que nous ne sommes pas.
Exactement. Parle-nous de la composition des poules, où cette année il y a une nouveauté, où c'est que tu as donné carrément le choix au club de composer leur poule.
Alors ça s'est passé différemment, c'est-à-dire qu'en fait nous on fait un premier travail de composition des poules et ensuite on les réunit en réunion publique, on leur présente tout le déroulé de composition, c'est-à-dire quelle a été la réflexion, comment on a fait nos choix de regroupement de poules. Toute la stratégie sportive, avec le nombre d'équipes, notamment je pense en D2, D3, le nombre d'équipes qui montent, le nombre d'équipes qui viennent de descendre, le nombre d'équipes réserves, on a essayé de tout équilibrer. Et ensuite, on a laissé la possibilité au club de pouvoir s'arranger avec une autre poule, donc en D2 ou en D3, mais comme en D4, on a offert la possibilité au club, en effet, de pouvoir s'entendre lorsqu'ils souhaitaient inverser de poule. C'est de constater, c'est que la composition travaillée par la commission sportive senior devait être cohérente puisqu'on n'a eu aucune demande de changement de poule.
D'accord, ça c'est très rare parce que souvent
les années précédentes,
on veut basculer de l'autre côté.
La première saison du mandat, on avait eu des demandes. La deuxième année du mandat, on avait eu des demandes et il n'y a que cette année, on a eu zéro demande en l'occurrence.
Donc c'est quelque chose qui est pas anodin.
Oui, il y a une transparence surtout, c'est-à-dire que les clubs sont parfaitement au courant de comment ont été faites les poules. Il y a pas de secret en fait. D'ailleurs, il y a rien à cacher et puis on le sait dans notre société actuelle, tout se sait de toute façon. Ouais. Donc autant être transparent dès le départ et d'expliquer comment ont été faits les différents choix. Comme quand on a des sujets disciplinaires et qu'on sait que deux clubs ont eu des problèmes l'année d'avant, bah, si on peut éviter de les mettre dans la même poule et se retrouver avec les mêmes problèmes, bah, il vaut mieux.
Il y a aussi eu 29 clubs qui ont sollicité le fonds de soutien.
Ouais.
Le fonds de soutien, c'est 846 000 euros.
Cette année-là, c'est à peu près 9 000 euros de demande, ouais, tout à fait.
Est-ce que toutes les demandes pourraient être honorées ?
Oui, bien sûr.
Ouais.
On est parti du principe, c'est que lorsque le district est excédentaire dans sa trésorerie en fin de saison, c'est un peu comme si c'était le bénéfice d'une entreprise qui est reversé aux actionnaires. Moi, je pars du principe que nos clubs sont ceux qu'on doit aider et satisfaire au maximum, dans l'intérêt général toujours. Donc, le principe a été d'établir l'an dernier, parce que l'idée est née il y a un an maintenant. Donc, il y a un an, on avait déjà fait le fonds de soutien. On avait reversé au club quasiment 15 000 euros. Et là, cette année, on a à nouveau soumis le fonds de soutien. Et donc là, pour l'instant, on est à peu près 9 000 euros de demande des clubs, sachant qu'on va également accompagner les clubs qui font le choix de prendre un contrat d'apprentissage ou un service civique. Donc on va également abonder.
Le reste à charge, en fait.
On va essayer de les aider. On va pas combler, puisque le reste à charge sur un contrat d'apprentissage est très important.
C'est important, ouais.
Mais si on arrive à les aider à hauteur de 500, 600, 700 euros, bah, c'est toujours 700 euros ou 800 euros de moins. Sur un contrat d'apprentissage, et quand on sait qu'il reste parfois 4 ou 5 000 euros à charge, bah, de récupérer 800 euros de la part de l'instance départementale, il y a une volonté en fait d'aider à la professionnalisation, à la structuration de nos clubs et notamment de nos écoles de foot. Voilà. Donc là, on va à nouveau aider des demandes en tout genre. Parfois, c'est des pommeaux de douche pour les vestiaires des joueurs. Parfois, ça va être une friteuse pour les événements de fin de saison du club, etc. Ben, notre rôle aujourd'hui, c'est d'aider les clubs au maximum dans leurs événements. On a fait le choix de ne pas augmenter nos tarifs depuis le début du mandat, depuis la saison 2024-2025. Cette année, on n'a pas dérogé. On n'a toujours pas augmenté nos tarifs.
Ouais.
On a même baissé certains tarifs d'engagement et notamment tous les frais de dossier disciplinaires. Et on maintient ce fonds de soutien. Qui aujourd'hui, avec 30 clubs, donc c'est à peu près un tiers des clubs du département, hein, qui ont demandé, sachant que c'est sur demande des clubs. Hein, donc,
bien sûr.
On n'oblige personne, mais on refuse personne. C'est-à-dire que tous les clubs qui demandent auront quelque chose. Voilà.
Rappel des 4 volets du coup de ce fonds sur quel.
La priorité, nous, c'est qu'on ne dépasse pas 50% de la dépense.
Okay.
C'est-à-dire que si le club en a pour 1 000 euros, ben on ne pourra pas donner 1 000 euros parce qu'il faut qu'on aide un maximum de clubs.
Bien sûr.
On a fait le choix de plafonner à 400 euros les dépenses pour les clubs. Donc, ouais. Qu'ils en aient pour 800 euros ou pour 3 000 euros, on aidera à hauteur de 400 maximum. Et il y a une volonté surtout d'aider les clubs qui n'ont pas d'autres dispositifs déjà. C'est-à-dire les clubs qui ont déjà bénéficié de l'Agence nationale du sport, d'une subvention publique. On fait le choix en effet de ne pas les mettre dans ce dispositif-là, puisque on ne peut pas jouer sur tous les tableaux et on ne peut pas bénéficier de toutes les aides. Il faut qu'il y ait une répartition et un maillage sur le territoire. Donc là, entre l'ANS... puisque l'ANS passe par le district, en fait, c'est nous qui allouons, on a un montant à allouer, les clubs font les dépôts de dossiers de subvention, et après on fait une clé de répartition.
D'accord.
Donc entre les dossiers ANS plus les dossiers fonds de soutien, plus les dossiers services civiques, ça va être cette année entre 40 et 45 clubs qui vont être accompagnés, donc pas loin de 50% des clubs du département. Je ne suis pas certain que tous les districts de France aient ce principe-là d'aide.
C'est pas rien. On parle de district, on parle aussi de bénévolat. Bénévolat, il y a des nouveautés qui sont arrivées. C'est la carte de fidélité du bénévole.
Oui, alors je ne sais pas si on peut dire carte de fidélité, mais c'est l'avantage bénévole.
Ouais,
on a mis en place, en fait, alors là, on est sur une phase d'expérimentation. Ouais. C'est un projet qui me tient à cœur, puisque ça fait 6 mois que je travaille dessus, avec notre ancien apprenti Ilham, que je remercie au passage puisqu'il a beaucoup œuvré à mes côtés sur ce projet. Tous les bénévoles du district, la semaine dernière, il y a eu la réunion de rentrée des bénévoles du district, donc qui sont membres de commissions, etc. Donc aujourd'hui, on est 144 bénévoles au district, dans les commissions diverses, etc. Et se sont vus remettre une carte avantage bénévole qui leur octroie des pourcentages de remise sur une vingtaine d'entreprises du département. Ça va du garage automobile au coiffeur, à des restaurants, à des parcs de loisirs, des salles de sport, etc. Donc ça, c'est le début de l'expérimentation, et parce qu'il faut y aller étape par étape. Et la deuxième étape, ça, je l'espère en tout cas, je suis en train d'y travailler d'arrache-pied pour que lors de l'Assemblée Générale Financière du mois de novembre, qui aura lieu le lundi 2 ou 3 novembre, je crois que c'est le lundi 2, il me semble, lundi 2 novembre, si je ne dis pas de bêtises, on aura l'Assemblée Générale Financière, et j'aimerais qu'à cet effet-là, on puisse remettre une carte bénévole également à tous les clubs et par fonction, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités de président, vice-président, secrétaire, trésorier de club. C'est-à-dire des personnes qui, au quotidien, œuvrent énormément parce que gérer la trésorerie d'un club et gérer le secrétariat, la prise de licence, etc., c'est un sujet énorme. L'idée, c'est qu'on puisse leur remettre en fait, à eux aussi, cette carte avantage bénévole du district, puisque ce sont des cartes qui sont nominatives, hein, avec nom et prénom, et qui sont valables. La carte est valable jusqu'au 30 juin 2027, maintenant.
Ça serait une nouveauté, ça, du coup.
C'est une nouveauté. Je pense que c'est une rareté, surtout, puisque, à mon avis, mais j'en suis même quasi sûr, on est le seul district à avoir ce projet-là.
Comment est venue cette idée ?
Aujourd'hui, la valorisation du bénévolat. Le bénévolat s'essouffle et il fallait trouver une solution, une alternative pour valoriser l'engagement des personnes qui font vivre notre football amateur et notre football rural. Donc, l'idée a été de se dire, bah, si on n'est pas en capacité de pouvoir faire des cadeaux, des dotations financières, des dotations matérielles, etc., il faut qu'on soit en capacité de pouvoir leur apporter d'autres avantages. Et aujourd'hui, l'idée, en fait, ça a été de se dire, bah, dans certaines entreprises, il y a une carte de fidélité. Quand on y va souvent, bah, on a, dans certains restaurants, on a un pourcentage de remise, ou dans certaines activités, on a des prix à prix cassé, des produits à prix cassé. Bah, là, je me suis dit, bah, pourquoi pas tout simplement trouver des enseignes qui vont accepter de vouloir accompagner la valorisation du bénévolat avec des baisses subsidiaires de montants. Voilà, donc. Là, dans la carte bénévole, on a notamment Buffet Moderne, par exemple, avec 10% de remise sur chaque repas. On a un garage automobile sur Sarlat, CK Sport, qui fait une remise de 10 à 20% sur la main-d'œuvre. On a Coiffeur qui fait des remises de 15 à 20%. Voilà, c'est plein de petits avantages qui fait que ben, ce sont des actes du quotidien dont on a besoin, hein, parce que réparer sa voiture, on en a besoin. De temps en temps, aller au resto, on est content d'y aller. Chez le coiffeur, donc à part ceux qui sont chauves, mais normalement on aime bien aller au coiffeur aussi pour se coiffer, et ben voilà, on a essayé de trouver, il y a des salles de sport pour les sportifs, etc. Et l'idée, c'est qu'on bascule, là on est à une vingtaine d'entreprises, et j'aimerais qu'on arrive à basculer à 50 entreprises d'ici Noël, et d'avoir un vrai vivier d'entreprises qui accompagnent justement la valorisation du bénévolat. Voilà.
Le district essaye de trouver toutes les failles pour faire rentrer de l'argent dans les caisses.
Oui.
Le naming est quelque chose qui est de plus en plus de tendance.
Oui, totalement.
Du coup, là, on va pouvoir peut-être répondre à la question là, qui vient de tomber. Pourquoi ne pas avoir appelé la D1 Patrick Matenet?
Alors, Patrick Matenet, en l'occurrence, lorsqu'il est décédé en décembre dernier... le choix a été fait de valoriser autour de la soirée des bénévoles, ouais. Puisque le bénévolat était c'était son leitmotiv, c'était son dada. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait et on a organisé la soirée des bénévoles du district, qui était une édition spéciale Patrick Matenet, avec la présence du président de la LFA, donc Claude Delforge, qui pour nous est le numéro 2 de la fédération, hein, donc c'est pas neutre. On a fait le choix de nommer Patrick Matenet président d'honneur au mois de juin également. Donc c'est un deuxième acte fort, et aujourd'hui nommer une compétition au nom d'une personne, on n'en voyait pas la symbolique, en fait, sachant que Patrick était très attaché au bénévolat, et c'est la raison pour laquelle on a plutôt fait le choix dès notre arrivée, et il était encore vivant d'ailleurs, on a nommé tout le bâtiment hébergement au district, on l'a nommé à son nom, et je pense qu'aujourd'hui ça aura plus de portée en l'occurrence, puisqu'on a le bâtiment au district, la maison du football qui lui était si cher. On a le centre hébergement Patrick Matenet depuis septembre 2024, donc c'est-à-dire 3 mois après mon élection. Je pense que c'était le plus bel hommage, et on lui a surtout rendu un hommage à son bénévolat du temps de son vivant, et je pense que c'est mieux.
Ah ouais. Et du coup, on revient au naming. Du coup, l'idée de...
L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est des entreprises qui veulent nous accompagner en termes de visibilité. Nous, c'est forcément, il y a une source de rentrée d'argent et qui nous permet justement derrière de pouvoir accompagner nos événements. Là, on avait la soirée de rentrée. Tous les clubs finalistes sont repartis. Tous les clubs finalistes de toutes les coupes départementales jeunes, féminines et seniors sont repartis avec une dotation en ballon. Ça nous permet sur nos événements, coupes et championnats, d'avoir aussi une organisation aujourd'hui qui est une fête du football départemental. Donc, le naming aujourd'hui permet aussi d'abaisser et de ne pas surcharger les tarifs pour les clubs. Et de ne pas augmenter, puisque nous, à notre arrivée, on a baissé la fameuse cote-part licence qui était de 2 euros avant mon arrivée, de la baisser à 1 euro et de revenir à l'époque Matenet, parce que j'aime bien utiliser cette expression, sachant qu'il y a d'autres districts de Nouvelle-Aquitaine ou de France où on est sur une cote-part licence à 3, 4, 5, 6 euros.
D'accord.
Nous, on est à 1 euro.
1 euro.
Voilà. On fait partie aujourd'hui des districts dont les tarifs sont les plus bas, puisqu'on a fait une étude comparative des 12 districts de Nouvelle-Aquitaine. J'ai un tableau avec plus de 150 lignes de comparaison. Et aujourd'hui, on est dans le top 2 des districts de Nouvelle-Aquitaine les moins tarifés. Donc, et en plus de ça, on ne les augmente pas. Et au contraire, on a envie même petit à petit de les baisser. Donc le naming fait partie des solutions qu'on a trouvées, justement permettant... je pars du principe que c'est au district de trouver des solutions pour ne pas à ce que ça soit les clubs à payer la note à la fin de l'année. Voilà, en résumé.
La Dordogne a rapproché ses frontières. Je vais parler.
Les U19, tu veux parler. Voilà, les U19, et on a également les U15 et les U18 féminines. Alors, sur les U19, on a créé on a créé une compétition U19 interdistrict avec la Charente. Et qui a tellement bien fonctionné, c'est que la Haute-Vienne et la Corrèze nous ont sollicité tardivement. Mais comme on est une terre d'accueil en Dordogne, on a accepté.
Et on est réactif.
On a accepté de les accueillir. Et ça va nous faire, en effet, on a 19 équipes engagées sur cet interdistrict. Donc on va dire qu'on va être sur une sorte de. Ben on est sur une alternative entre les U17 et les seniors. On sait aujourd'hui qu'on a des gamins qui ne sont pas encore prêts pour le monde senior. Et ça va être une belle alternative qui va leur être proposée. Et on va avoir en plus un championnat consistant, puisque 19 équipes, ça fait 3 poules de brassage au départ. Et après, on fera par niveau à partir du mois de décembre-janvier. Et sur les U15 et les U18 féminines, il y a eu une nouvelle réorganisation au niveau régional des intersecteurs. Et maintenant, on est rattaché à la Corrèze et à la Haute-Vienne. Et la Creuse, mais ils n'ont pas d'équipe pour l'instant. Mais à la Corrèze et la Haute-Vienne, sur le foot féminin à 11, en U15, en U18. Et il y a même un projet également sur les féminines à 11 seniors, de pouvoir être également et d'avoir une continuité, d'avoir un plan à plus long terme.
Le chantier du football féminin ?
Ouais, c'est
quelque chose que tu prends à cœur ?
Ouais, je tiens à cœur parce que ben voilà, on a été en difficulté hein, pendant de nombreuses années. Et donc là, cette année, on a offert la possibilité de la double pratique avec un calendrier adapté. Et on a allégé les contraintes aussi réglementaires sur les U16 et les U17, puisque auparavant on était bloqué à une U16 et deux U17 qui pouvaient jouer en senior par feuille de match. Donc là, on a ouvert les vannes en U11, sur le foot à 11, hein, on est à 3 et 3, 3 U16 et 3 U17. Parce que ben, très peu de clubs en Dordogne ont la possibilité d'avoir une équipe U18 à 11 pour jouer au football. Et donc notre réflexion a été de dire ben, ces gamines-là, quand elles sont. En zone rurale un peu éloignée des grands clubs, mais il faut quand même qu'elles puissent continuer à jouer au football. Voilà. Ouais. Et je préfère on préfère avoir des filles sur le terrain plutôt que de se dire qu'elles sont sur le bord du terrain et qu'elles doivent attendre leur tour à cause de contraintes réglementaires et non pas de contraintes sportives.
Donc ça, c'est quelque chose oui, que tu vas... Que tu
ça y est, c'est en place depuis là. On l'a fait voter au club au mois de juin lors de l'Assemblée Générale, qui a eu lieu d'ailleurs à Ribérac. Qui a été une vraie réussite. Et donc là, aujourd'hui, on est en train vraiment d'ouvrir les vannes pour faciliter l'accès à la pratique, mais pour tout le monde. Voilà.
Ouais.
Donc là, on est en train de lancer cette saison le label inclusif, le label 24, qui va être là pour aider les clubs à se structurer sur la pratique U7, U9, U11, U13, parce qu'on part du principe aujourd'hui que c'est l'avenir de nos seniors, ce sont nos jeunes d'aujourd'hui. Donc c'est maintenant qu'il faut y passer de l'énergie, du temps et des moyens.
Le label, c'est justement valoriser l'encadrement.
Valoriser l'encadrement et valoriser la démarche de projet club engagé. Donc les clubs qui ne sont pas éligibles à un label fédéral, donc de la fédération, et bientôt ce qui va être appelé le projet club, ben nous, on va avoir une sorte de... on va pas appeler ça le label 24 en l'occurrence, hein, mais ça va être... l'école de foot diplômante, parce qu'on a une volonté d'accompagner les clubs et de les aider. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a reconduit cette année le fonds d'aide à la formation, puisque on est l'un des rares districts également à allouer également un budget pour rembourser une partie des frais de formation de la fédération ou de l'IR2F, de la Ligue, pour la formation d'éducateurs et la formation d'arbitre d'ailleurs, puisqu'on a mis les deux dans la boucle. Voilà. Donc, et on a également le label inclusif. Qui vise à faciliter l'intégration de personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, on sait qu'on a
sur le foot adapté ?
Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, foot adapté et unifié.
Ouais.
Puisque l'idée, c'est qu'on puisse à terme avoir des personnes qui sont valides, qui puissent partager des moments et le football avec des personnes en situation de handicap. Plutôt que de les mettre dans des cases, on préfère au contraire justement les intégrer tout simplement avec des personnes valides.
Ouais. Un point sur la Coupe de Dordogne. Alors moi, je pensais, c'est moi qui étais certainement à la rue, mais la Coupe de Dordogne, en fait, il y a une nouveauté, c'est qui apparemment est déjà en place depuis 2 ans.
Et ouais,
je l'avais pas vu. Oui, du coup, on sait qu'il y a une partie. Du coup, club de district, club de ligue.
Exactement.
Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le mécanisme ?
Tout simplement, on fait le choix que les clubs de ligue s'affrontent entre eux jusqu'en 8e et les clubs de district s'affrontent entre eux jusqu'en 8e. Pourquoi ? On est parti du principe que il y avait deux calendriers complètement différents. Le calendrier de ligue et le calendrier district n'est pas le même.
Ouais.
Donc c'est compliqué pour organiser aussi les rencontres, si ce n'est les faire jouer en semaine. Pas toujours évident. Et ensuite, le deuxième point, c'est que je tenais à ce qu'il y ait une équité en huitième de finale et qu'on ait 8 clubs de district, 8 clubs de ligue. Voilà.
D'accord.
Et ça, ça j'y tenais parce que c'est plus représentatif de notre football.
Est-ce que ça renforce l'interactivité, tu vois ?
Oui, oui, parce que ça, ça permet à des petits clubs de pouvoir faire des parcours déjà en Coupe de Dordogne. Parce que quand je me rappelle, il y a 3 ans de cela, Petit Bersac était en D4 qui prenait Ribérac dès le premier tour de la Coupe de Dordogne. Donc c'était avant mon arrivée, donc c'était il y a 3 ans. Hein, et qu'ils en prennent 7 ou 8 dès le premier tour, je ne vois pas où est l'attractivité. Donc, je préfère que les clubs de D4, D3, D2 s'affrontent entre eux, puis les clubs de D1.
Ouais.
Et ensuite, justement, de se retrouver en huitième de finale. Et ben voilà, et on prend le cas l'an dernier de Javerlac,
oui.
Club de D3, qui fait quart de finale de Coupe de Dordogne, historique pour eux, mais historique parce que même pour le département, c'est chouette. Moi, je suis heureux de voir des clubs de D2, D3, D4 qui puissent aller jusqu'en huitième ou en quart de finale de Coupe départementale.
Et du coup, est-ce que c'est pas défavorable pour les clubs de Ligue ?
Bah, les clubs de Ligue, non, parce qu'au final, ils sont gagnants, puisque les clubs de Ligue, en fait, ils sont allégés de la première partie de saison de la Coupe départementale. Ouais. Ils s'affrontent qu'entre eux sur un tour de, on va dire, l'équivalent d'un 16e de finale. Et ils se retrouvent derrière en huitième de finale. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors oui, il y en a qui parlent de la magie du football, mais la magie du football, on peut l'avoir dès la Coupe de France, dès le premier tour, la Coupe d'Aquitaine pour ceux qui souhaitent la faire. Mais la Coupe départementale, c'est bien d'avoir justement 8 clubs de ligue, 8 clubs de district qui se retrouvent pour en découdre sur un tirage intégral à partir des huitièmes.
Est-ce qu'il y a une nouveauté qu'on n'aurait pas parlé ce soir
C'est déjà pas mal. Hein.
C'est déjà pas mal, surtout.
Ouais, je pense que sur tout ce qu'on a annoncé, c'est déjà pas mal. Dernier point, s'il y a un point important, c'est un ajustement des barèmes disciplinaires.
Ouais.
Voilà.
Ah oui, oui.
Barèmes disciplinaires, c'est-à-dire que cette année, on a fait j'ai demandé à ma commission de discipline qui se réunit demain soir, et ça va être en place à partir de la première journée de championnat. On va traiter différemment le cas des seniors féminines et des jeunes, parce qu'ils ont moins de matchs dans l'année. Quand un senior prend 5 matchs de suspension, en principe, ils sont purgés dans les 5 matchs qui arrivent, quoi.
Ouais.
Hein, dans les 5 week-ends qui arrivent. Sauf qu'en féminine ou en jeune, comme il y a moins de matchs dans la saison, ils mettent plus de temps à purger. Donc, pour un même fait, certains peuvent se retrouver finalement avec une temporalité à 2-3 mois de suspension, pendant que les seniors, eux, vont avoir finalement que un mois et demi de suspension. Donc, j'ai demandé à la commission discipline de tabler sur quelque chose, et grosso modo, on va être sur un quart de la sanction qui sera transformée systématiquement en sorte de sursis. L'idée, c'est de permettre aux jeunes, en fait, d'être moins impactés parce que un jeune qui a 15-16 ans qui peut avoir une maladresse, un mauvais geste sur un match, s'il se retrouve 3 mois ou 4 mois loin des terrains, on peut le perdre. C'est pas le but. Il faut avoir aussi une volonté pédagogique, et donc on va adapter le barème disciplinaire au fait qu'il y a moins la proportion qui est moins de matchs dans l'année, en fait.
On aura toujours un œil sur la discipline.
Il y aura toujours un œil, mais il y aura quand même, pour le coup, il va y avoir un allègement sur les jeunes et sur les féminines pour avoir, en fait, un taux comparable, en fait, au nombre de matchs par rapport à des seniors. Exactement, tout à fait.
Il y a un message de Christophe Barrière qui dit bravo pour les nouveaux clubs qui ont été créés cette année, parce qu'il y en a eu.
Oui, on a eu quelques créations de nouveaux clubs, et aujourd'hui, on fera en sorte de les accompagner. C'est le but. On est à 106 clubs sur le département aujourd'hui. Donc on a malheureusement 6 clubs en sommeil aujourd'hui. Sur les 6, on espère qu'il y en a 2 ou 3 qui vont repartir. Mais on est à 106 clubs. Et là, à date, on est à quasiment plus 3% de licenciés sur le département par rapport à la même date qu'il y a un an. Pour l'instant, les voyants, on va dire, on va se satisfaire de ça. Mais il faut rester vigilant, bien sûr, mais c'est quand même pas trop mal. Les voyants sont ouverts pour le début de cette saison, en tout cas.
Merci Jonathan d'être venu dans cette première demi-heure sport de la saison 2026-2027, et on tiendra bien sûr au courant tout le long de la saison.
Avec grand plaisir.
Et moi je vous donne rendez-vous, on se donne rendez-vous avec Jonathan dans quelques instants sur les réseaux sociaux pour le tirage des coupes. Du coup, ça se passera en live bien sûr sur la demi-heure sport, donc restez connectés. Merci à vous.
Merci
Jonathan.
Merci à tous les deux.